Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bien comme un podcast, un podcast où est-ce qu'on se pose différentes questions afin de mieux comprendre les enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, on voulait un peu mieux comprendre c'était quoi l'adaptation au changement climatique, c'est quoi que ça voulait dire, c'est quoi l'impact des changements climatiques aussi. Donc on a ratissé quand même large, puis on a été très chanceux, on a été bien accompagné par Prisette Devonou, qui est une experte justement en adaptation au changement climatique. Donc, Eric, je te laisse faire le topo un peu plus détaillé de notre rencontre avec elle.
Yes, merci, Eric. Ben, en gros, c'est ça. Aujourd'hui, ben, d'une part, je te dirais, là, on a tout simplement comme mieux compris les impacts concrets des changements climatiques. Tu sais, changement climatique, souvent, c'est un gros terme qui, pour moi, n'est pas concret. Fait qu'on a, justement, on a mis de l'avant quelques exemples, justement, de comment ça peut se faire ressentir, les fameux changements climatiques. Puis, on a également parlé, justement, qu'il y a des plans en place par le gouvernement. Tu sais, en termes d'adaptation au changement climatique, c'est ça qu'on s'est rendu compte avec Prisette, que justement, le gouvernement a mis en place des plans d'action, des actions concrètes, ont identifié les risques. Donc, c'est ça, c'est vraiment bien identifié de prime abord, justement, quels sont les risques et comment s'adapter par rapport à ça, justement, face au changement climatique. Puis, tu sais, je dirais ultimement, Eric, aussi, là, que ce qu'on a appris, puis moi, c'est ça qui m'a marqué de l'épisode, ben ça passe vraiment par chaque individu, chaque citoyen, vraiment, en tant que chaque personne, tu sais, on a une responsabilité. Puis comment justement on peut contribuer à atténuer puis à lutter contre les changements climatiques, simplement justement en faisant attention dans notre vie courante de tous les jours, dans notre mode de consommation. Donc c'est ça, juste être responsable davantage en tant que citoyen, mais ça va aider à justement atténuer puis lutter contre les changements climatiques.
Ben merci Eric. Bonne écoute tout le monde. Bonjour, Prisette Devonou.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Je vais très bien, et vous?
Oui, oui. Bienvenue Parfait. À Bien comme un podcast.
Merci.
Merci de nous rencontrer.
Avec plaisir.
Aujourd'hui, on veut mieux comprendre un peu c'est quoi l'adaptation au changement climatique.
Mm-hmm.
C'est quoi le rôle qu'on a à jouer là-dedans? Puis c'est quoi l'impact que ça a sur nous aussi, les changements climatiques?
Mm-hmm.
Donc, vous pouvez peut-être commencer par une brève présentation de vous, nous dire un peu c'est quoi votre parcours, puis c'est où vous travaillez.
Ben parfait, pas de problème. Donc, je suis Prisette Devonou. C'est sûr que ça ne sonne pas québécois. je suis originaire du Bénin. C'est un pays qui est en Afrique de l'Ouest. Généralement, je dis aux gens juste à côté du Nigeria, parce que le Nigeria est plus connu à l'international que le Bénin. Donc, je vis au Québec depuis 17 ans à peu près. Pas à Québec, au Canada. J'ai fait le Nouveau-Brunswick. Ensuite, je suis venue m'installer à Québec. Okay. Je suis venue comme étudiante de formation de base. Je suis ingénieure agronome.
Ah ouais, ok.
C'est
okay.
Ça.
Ah.
Donc, avec un début de spécialisation en gestion de ressources naturelles. Donc, généralement, quand on finit, on sort comme ingénieur forestier, si on peut parler ainsi. Par la suite, j'ai travaillé un petit peu chez moi au pays et je suis venue ici pour poursuivre mes études.
Ok.
Donc, j'ai fait un master en études de l'environnement à l'Université de Moncton. Ensuite, j'ai travaillé comme consultante à l'international sur diverses questions liées au changement climatique ou à la gestion des ressources naturelles, mais focalisées sur l'évaluation des programmes de développement en Afrique.
Okay.
C'est ça. Et ensuite, je suis venue à Québec pour faire mon doctorat à l'Université Laval. Et au cours de mon doctorat, j'ai commencé à enseigner comme chargée de cours au département de géographie. Donc, c'est des cours dans le cadre d'un micro-programme sur les changements climatiques.
OK. Ah, je ne connaissais pas ce micro-programme-là.
C'est ça. Donc, après mon doctorat, j'ai eu à travailler comme professionnelle de recherche. Et puis ensuite, j'ai intégré le gouvernement québécois comme professionnel en adaptation au changement climatique.
Cool. Ben, super. Je pense que vous êtes une personne... Parfaitement bien formé pour répondre à nos questions aujourd'hui.
Donc, yes, ben moi, puis je me lancerai peut-être avec, si tu me permets.
Oui, vas-y.
Ben, commençons tout d'abord par définir un petit peu les changements climatiques. Je pense qu'on le prend pour acquis des fois, mais c'est quoi les changements climatiques, carrément?
Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est pas un exercice qui est facile. je me rappelle que j'avais à parler des changements climatiques devant un public qui n'était pas du tout scientifique, n'était pas connaisseur du tout. Et ce que je leur disais souvent, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui ont changé? C'était des agriculteurs, je leur disais, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des changements dans les saisons, dans les prévisions que vous avez l'habitude de faire? Et là, ça commence à parler aux gens. Les changements climatiques, oui, c'est des constats dans la météorologie, mais il faut que ce soit des changements durables dans le temps.
Okay. Il faut que ce soit observable.
Donc, c'est des tendances que l'on observe. Et ce qui a été remarqué, c'est que depuis la révolution industrielle, on a remarqué qu'il y avait une augmentation constante, enfin, pas constante, mais progressive. Et l'augmentation, elle est comme, la bonne expression ne me revient
pas. Elle est anormale, si on veut.
Elle est anormale, c'est ça, de la température. Donc, c'est de là qu'on parle de changement, de réchauffement climatique. Il y a quand même une différence à faire parce que le climat a toujours changé naturellement, ouais, c'est ça. Ça c'est sûr. Mais c'est qu'on remarque qu'il y a une accélération du réchauffement. C'est ça. Ouais. Donc, et c'est là
qui perdure dans le temps.
Qui perdure dans le temps, exactement. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est basé, c'est un changement qui est dû aux activités humaines, notamment aux émissions de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Okay. Donc voilà.
Puis, moi, j'aurais une question justement dans, un peu pour avoir quelque chose de concret en tête. Là. Mettons, là, on parle de changement climatique, vous avez donné quelques exemples tantôt, mais en auriez-vous d'autres justement? Comment on perçoit, mettons, un citoyen dans une vie de tous les jours, comment on perçoit les changements climatiques? Avez-vous des exemples de ça?
Bon, comme je l'ai dit, qu'on perçoive des changements dans son environnement, oui, c'est des observations, mais pour parler de changement climatique, il faut qu'il y ait une tendance dans le temps.
Dans le temps, oui, c'est vrai.
C'est ça. Donc, quand on va interroger, par exemple, des gens qui ont l'habitude de faire l'agriculture, moi, c'est avec eux que j'ai souvent travaillé, ils vont dire, ben, il y a 30 ans en arrière, la saison de pluie, je viens d'Afrique, la saison de pluie arrivait plus tôt. Le départ de la saison des pluies, c'est comme le signe là pour l'agriculteur qu'il faut qu'il commence à faire ses semis. J'imagine qu'ici aussi, c'est la même chose. Et donc, il va remarquer qu'il y a comme un décalage là dans le démarrage de la saison.
Voilà.
Par rapport à il y a 30 ans.
C'est ça. Puis ça, c'est pas dans une saison. C'est qu'il voit ça au fil du temps, dans plusieurs saisons.
Exactement.
Voilà. Exactement. Donc, par exemple, je pose la question. Cet hiver, ben là, à part présentement, au moment d'enregistrer la vidéo, je trouve qu'on a eu un hiver plutôt doux.
Oui.
Hiver 2023-2024. Donc, si on se fiait seulement à cet hiver-là, qui, selon moi, était un petit peu plus chaud, il faudrait regarder les données, ce serait pas suffisant pour dire que c'est doux au changement climatique. Mais c'est si on regarde justement dans le temps, dans les dernières années, puis on regarde dans le futur, ben là, on serait capable de le décider.
On va se fier aux paramètres climatiques, la température, les précipitations, c'est quoi les tendances dans le temps. Donc, pour la température, c'est le paramètre le plus facile à mesurer. Ouais. On remarque qu'il fait de plus en plus chaud. C'est observable. On a les données observées. On voit qu'effectivement, au fil du temps, il fait plus chaud.
Voilà.
On a les données historiques, fait qu'on peut voir des tendances. Parce que c'est sûr que si on demande à tout un chacun, est-ce qu'on a observé les changements climatiques, c'est dur de dire oui ou non, parce que ça varie tellement. Puis là, aujourd'hui c'est une journée de tempête, mais on peut être biaisé par ça, puis dire finalement l'hiver a été plus dur. OK, mais c'est bon de savoir au moins que c'est appuyé par des données fiables, puis sur une longue période de temps.
Puis moi, dans le fond, quand on parle des changements climatiques, là, est-ce qu'il y a des gens, des populations, des pays qui vont être plus affectés par ça que d'autres à travers le monde?
Ça dépend. La réponse que l'on donne souvent, c'est oui, les pays pauvres vont être plus affectés que les pays riches.
Pourquoi?
En se basant sur la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est un concept qui regroupe des éléments... Comment je dirais ça? Comme la sensibilité. Ça dit, par exemple, est-ce que le pays est un pays qui est organisé pour faire face à des cas d'urgence? Ici, par exemple, on a des hôpitaux, on a des plans d'urgence, on a le moyen. On a des ressources financières comparativement aux pays pauvres qui ont moins de ressources financières, où on sait que la plupart du temps, l'État est comme non efficace, là, pour parler en termes terre-à-terre.
Ouais.
Donc, on se dit que ça va être plus difficile pour ces pays-là, en cas de catastrophe, de s'organiser. Mais moi, je dis, comme j'en parle souvent à mes étudiants, il faut nuancer un petit peu. Il y a un facteur que moi, je trouve qui n'est pas matériel, qui n'est pas mesurable, qui pourrait jouer à l'avantage des pays plus pauvres, là.
Okay.
C'est des pays où les populations sont constamment confrontées à des situations difficiles. Donc, il y a comme une résilience là, qui s'est développée naturellement et qui n'est pas mesurable, qui fait que, à mon avis, ces pays pauvres, même si ils n'ont pas l'organisation qu'il faut pour faire face à des cas, à des manifestations là, d'événements extrêmes, ben, cette capacité naturelle, entre griffes, que je dirais, qu'ils ont comme à tout le temps faire face à des difficultés, leur donne un certain avantage.
Je comprends.
Je pourrais dire, voilà.
La résilience qu'ils ont développée au fil des années va faire en sorte qu'ils vont s'adapter plus efficacement.
Exactement. On l'a vu pour le Covid, là, par exemple. On s'attendait à ce que dans les pays africains, qu'il y ait des cas de mort. Il y en a eu, c'est pas qu'il n'y en a pas eu, mais le fait que ces pays aient eu à faire face à des épidémies au fil du temps les a un peu mieux
préparés. Okay. C'est intéressant.
Voilà.
Okay. Donc, il y a tout l'aspect ressources et développement du pays. Mais j'imagine qu'il y a aussi le facteur géographique.
Ouais.
Absolument, oui.
Si une ville est vraiment au même niveau d'eau, puis que là, on voit une hausse du niveau de la mer, mais il va peut-être avoir des inondations.
C'est ça. On a deux des plus grandes villes au monde, là, des villes les plus peuplées au monde. Là, les pays asiatiques sont connus comme étant, qui sont menacés par l'augmentation du niveau de la mer. Ici, au Québec, pour revenir à notre réalité ici, c'est notre position arctique, là, proche de l'Arctique, qui vient nous affecter. On sait qu'en Arctique, c'est l'une des parties du monde où le réchauffement est le plus rapide.
Pour quelle raison?
Bonne question. Là, actuellement, on observe la fonte du Groenland, du pergélisol également dans le nord du Québec. Et donc, on est fortement impacté là, par ces conséquences-là du réchauffement climatique.
Parce que ça, justement, ça vient, justement, le réchauffement se fait en sorte que, justement, la glace fond, le niveau des océans augmente.
Exactement.
Puis, justement, c'est là que ça vient, justement, affecter certains pays qui sont géographiquement plus vulnérables.
C'est ça, exactement. Géographiquement plus vulnérables parce qu'ils sont exposés. Donc, là, on parle d'exposition. Le Québec, lui, sa position nordique fait qu'il est exposé, justement, à la fonte, là, du Groenland, la fonte du pergélisol, ben, qui fait que ça vient affecter... Économiquement, là, ça affecte le nord. Là, on sait que les routes au nord, là, sont installées sur le pergélisol. Si ça fond, mais il y a des déformations. Okay. On sait que les pistes d'atterrissage, dont dépendent beaucoup de villages nordiques, sont souvent les liens uniques pour eux, pour être desservis en marchandises, en produits sanitaires. Ben, ces pistes-là peuvent être déformées à cause de la fonte du pergélisol. Okay. Donc, ça les rend plus vulnérables.
Puis moi, j'ai en tête, je pense que j'ai souvent entendu, par exemple, la ville de New York, qui, je pense, si c'est pas au même niveau, pratiquement sous le niveau de la mer.
Exactement.
Ça, c'est ce genre de ville-là qui va être particulièrement vulnérable au changement climatique.
Particulièrement vulnérable. D'où je viens aussi, là, le pays d'où je viens, la plus grande ville, Cotonou, qui a des millions d'habitants. On a le Nigeria aussi qui est à côté, qui est un Maus, là, qui a une ville qui est au bord de la mer.
Ah, ouais.
Toutes ces parties-là du monde sont menacées par l'élévation du niveau de la mer. Dans d'autres parties du monde, ça va être des sécheresses. La sécheresse, on l'a dans l'ouest canadien, qui est comme le grenier du Canada. On vit des situations de sécheresse.
Ouais.
Donc, ils vont affecter l'économie, là, parce qu'on dépend de ces régions-là. En Californie aussi, on parle également de sécheresse. Californie, qui est comme le grenier des États-Unis. Donc, voilà.
Mais il y a aussi, j'imagine qu'il y a aussi un impact au niveau des rives, la protection des rives, s'il y a moins de glace qui se forme.
Oui.
Les glaces ont un effet protecteur des rives.
Exactement.
Là, s'il n'y a plus ces glaces-là, il y a plus d'érosion.
Il y a plus d'érosion, exactement. Comme on a le cas dans l'Est du Québec, là, on parle d'érosion, de submersion marine. Ça a un lien. Il y a plusieurs études qui sont de l'université de l'UQAR à Rimouski, qui porte là-dessus. Ça peut être intéressant. Là.
Pourquoi? Parce qu'il y a de la glace qui se forme sur les rives.
Mais dans le fond, le fait qu'il y ait... Je ne sais pas mon domaine d'expertise. Je vais laisser ça aux géomorphologues. mais ce que je comprends, pour parler de façon terre-à-terre, c'est que la formation de la glace est censé protéger la rive. Étant donné qu'on vit une situation de réchauffement, la formation de la glace est plus tardive, la glace est plus fragile, donc ça fait que nos côtes sont vulnérables. Et en même temps, on a l'élévation du niveau.
Puis là, avec le mouvement de l'eau, ça fait en sorte que les rives se creusent de plus en plus. Donc,
Oui, parce que tu sais, dans le fond, la glace agit comme brise vague.
Exactement.
Des fois, ils mettent des grosses roches, là, ça vient briser la vague. Mais la glace fait le...
Naturellement, c'est la glace qui fait ce travail-là.
Qui fait ce travail-là. Exactement. On l'a dans l'est du Québec actuellement.
OK. Puis moi, on a parlé beaucoup justement de comment ça se voit, ces changements-là, ça peut être quoi. Mais là, on arrive sur notre sujet principal de l'épisode, l'adaptation au changement climatique. Comment on peut s'adapter à ces changements-là?
Il y a différentes façons de s'adapter. Quand on parle d'adaptation, j'aime à dire qu'il y a comme deux parties. Il y a l'adaptation à la situation d'urgence, donc on fait face, il y a quelque chose, il y a une situation d'urgence qui se présente, un feu de forêt, une inondation, il faut avoir des plans d'urgence.
Qui est instantané et visible.
Exactement, exactement, mais ça, c'est une adaptation qui est comme en réaction.
Ouais. Okay.
Mais il y a l'adaptation qui est comme en prévention.
Voilà,
c'est,
ok.
C'est là où les gouvernements ont un rôle à jouer. On a vu une vague là, d'adoption de plans d'adaptation dernièrement à différentes échelles du gouvernement pour prévoir justement, comment je dirais ça, il faut dans un premier temps faire une analyse du risque climatique.
Ok.
Voyez-vous, parce que jusqu'ici, on s'est concentré sur l'atténuation, baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais on prend conscience que ben, on vit déjà les changements, il faut s'y adapter. Là, on a été comme en réaction jusqu'à présent. Maintenant, pour être en prévention, il faut faire une analyse du risque dans sa globalité. Cela passe par comprendre les aléas qui se manifestent. Quand je dis aléas, vagues de chaleur, inondations, feux de forêt, etc. Okay. Comprendre ces aléas-là, caractériser ces aléas, c'est-à-dire quand ils se manifestent, c'est quoi leur degré de sévérité, comment est-ce qu'ils impactent nos activités, etc. Ensuite, maintenant, comprendre, ben, comme vous le disiez, comme on le disait tantôt, quelle est la population qui est vulnérable, quels sont nos biens qui sont vulnérables à ces aléas-là, et à partir de là, qu'est-ce que nous, on a déjà mis en place pour faire face à ces aléas? Et à partir de là, on détermine le risque qui est comme résiduel, et par rapport à ces risques, on détermine des mesures d'adaptation. Donc, ça peut être verdir une ville, parce qu'il y a des épisodes de vagues de chaleur. Donc, verdir les rues pour qu'il y ait plus de...
OK. Mais ça ferait quoi en termes de chaleur? Les arbres, la végétation permettrait d'absorber...
Ça absorbe vous savez qu'on sait que les... excusez-moi, les arbres absorbent le rayonnement solaire. Donc, ça rafraîchit l'environnement. Ça peut être, par exemple, demander aux populations, si on sait, par exemple, qu'il va y avoir... de l'inondation, ben, prévoir de les évacuer. Bon, ça, c'est toujours en réaction. Mais en prévention, on peut dire, par exemple, que ça peut être, par exemple, de déménager une population. C'est le cas le plus extrême. Mais si on se rend compte que, ben, y a de l'érosion et qu'il n'y a plus rien à faire, ça va être de déménager les maisons, de déménager même la route. Parce que parfois, la route, surtout dans l'est du Québec, la route peut être menacée par l'érosion, par exemple. Donc, ça peut être de décider de déménager, carrément déménager la route.
Fait que c'est ça, là... T'sais, peut-être que dans les 20 dernières années, on voyait un peu moins les phénomènes, du moins nous au Québec, mais là, ça commence à se faire de plus en plus ressentir, puis on dirait qu'on commence à réaliser que c'est vrai ce qu'on se fait dire depuis 20 ans, justement. Oui. Donc là, ce serait le temps qu'on se réveille puis qu'on fasse quelque chose.
Puis moi, j'avais une question. Tu sais, on parle beaucoup du rôle, vous parlez beaucoup du rôle du gouvernement, mais mettons, en tant que citoyen, est-ce qu'on peut porter des actions? Quelles sont les actions qu'on peut porter pour s'adapter au changement climatique?
Ben, ce serait de ne pas se mettre dans des situations qui nous rendent vulnérables. Si, par exemple, on a un système d'alarme qui nous dit ben, il va y avoir une vague de chaleur, mais ça va être, par exemple, de mettre nos aînés à l'abri, de ne pas sortir ce jour-là, de prendre des dispositions pour être dans un endroit peut-être plus frais. Donc, ça, c'est un exemple...
Ça protège tout un chacun, mais ça revient un peu en réaction à...
Oui, ça vient un peu en réaction. À l'échelle individuelle, c'est difficile de dire en prévention. Ah, mais c'est sûr que, par exemple, si tu décides d'aller t'installer dans un endroit où on sait qu'il y a de l'érosion et que...
Sur le bord de l'eau, maintenant.
Sur le bord de l'eau et que c'est menacé, ben, c'est sûr que c'est pas une décision
sage, là.
Mais si on veut agir à la source, tu sais, si on sait que les réchauffements climatiques sont causés par une hausse des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, j'imagine.
Ben oui, là, le citoyen a un rôle à jouer, absolument. Ouais. Okay. Là, que ce soit par le recyclage, une meilleure utilisation de l'énergie, la réutilisation de nos biens, parce qu'on vit dans une société où, bon, c'est
de consommation.
Ouais. Donc, ce serait des changements dans nos modes de vie, là, à notre échelle, là, qui contribueraient à atténuer, dans ce cas-là, on parlerait d'atténuation des changements climatiques.
Okay, ouais. Super. Puis, au niveau naturel, donc les forêts, les océans, tout ça, est-ce que, eux aussi, là, on a vu que les forêts avaient un certain rôle à jouer? Y a-t-il d'autres éléments naturels auxquels on ne penserait pas qui jouent un rôle important?
Ah oui, absolument. Tout milieu naturel nous permet de nous adapter. Les milieux humides, par exemple, ont un rôle à jouer là.
Milieu humide, ça serait quoi, par exemple?
C'est des milieux qui, je n'ai pas la définition exacte, mais c'est du, quand on dit un milieu, c'est qu'il y a présence d'eau.
Okay.
D'eau, okay. De façon plus ou moins permanente.
Okay. Si un marécage, maintenant?
Un marécage, okay. Chez moi, la mangrove, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler.
Le mot, oui, mais concrètement, je ne sais pas trop c'est quoi.
C'est un milieu humide qui est caractéristique là, de, d'où je viens, où on parle de mangrove quand il y a la présence des espèces végétales qu'on appelle les palétuviers. C'est des plantes qui ont des racines aériennes.
Ah, ouais,
c'est une forme d'adaptation de la plante, d'ailleurs. Donc, et c'est des plantes qui fixent le sol, qui filtrent en même temps quand l'eau quitte. Comment je peux vous donner une image? L'eau qui quitte la ville et qui doit aller dans l'océan. C'est comme si ce milieu-là permettait de filtrer l'eau-là de tout élément.
C'est un filtre naturel de l'eau qui arrive en amont.
Exactement. Et en même temps, c'est une protection contre les inondations, par exemple. Okay. Et étant donné qu'on parle de présence de plantes, de fixation du CO2.
Oui, en effet, ça y avait.
Exactement. Donc, voilà. Donc, la mangrove... Un très bel exemple là, d'un milieu humide, enfin d'un milieu naturel qui nous permet de
qu'on a tout intérêt à protéger,
exactement,
dans le fond.
Exactement.
Puis y aurait-il d'autres sortes d'éléments naturels? On a les milieux humides.
Les océans.
Les océans aussi?
Les océans, on sait que les océans actuellement, c'est les océans qui absorbent la majeure partie là, des CO2.
Ah ouais?
Okay.
C'est grâce aux océans qu'on comment je dirais ça, qu'on survit encore.
Mais comment ça se fait? Parce qu'on sait qu'avec les arbres, on l'a vu dans le premier épisode, c'est quoi le processus, mais le sien, de quelle façon il capte le CO2?
Par le phytoplancton. Par le phytoplancton. Et les océans absorbent aussi la chaleur supplémentaire là, qui...
Ça vient réguler la température.
Ça vient comme réguler la température, mais ça ne peut pas se faire de façon indéterminée. Vous avez dû entendre parler des effets du réchauffement des océans là, sur les récifs coralliens, par exemple. Et on sait que ces milieux sont des milieux importants pour la pêcherie, par exemple. On en a besoin, donc ça vient affecter directement nos activités, les activités économiques de certains pays. Des espèces, c'est comme si le réchauffement là vient, c'est des espèces qui sont habituées à une certaine température, le réchauffement vient affecter ces espèces là, donc il y a des changements dans le milieu naturel. Et si les océans ne sont pas protégés, à long terme, si on continue comme ça, il va y avoir comme des rétroactions. On sait que dans les océans il y a également du méthane, je pense, en tout cas, qui peut être libéré là au fur et à mesure que les océans sont affectés. Donc ça peut, le méthane qui est 28 fois plus réchauffant que le carbone, par exemple. Donc voilà.
Puis pour revenir au phytoplancton, là, vous me corrigerez si ce que je dis c'est pas exactement ça, là, mais j'avais vu dans un de mes cours à l'université, le cours de Planète Terre, que justement le phytoplancton venait absorber le CO2, un peu comme les arbres. Mm-hmm. Sauf que la différence entre les arbres et le phytoplancton, c'est que lorsque le phytoplancton meurt, il va tomber dans le fond océanique.
Exactement.
Et là, il va avoir un processus qui s'appelle la diagenèse, qui fait en sorte que le phytoplancton va comme se solidifier et faire partie de la roche du fond océanique.
C'est ça.
Et là, ensuite, avec le mouvement des plaques tectoniques, tout ça, ça va aller
s'enfoncer
sous la croûte terrestre.
S'enfoncer progressivement, oui.
Exactement. Et là, c'est enfoncé pour des millions et des millions d'années.
Exactement.
Comparativement aux arbres, qui, eux, vont se dégrader et relibérer le CO2.
Exactement.
Et c'est la raison pour laquelle les océans ont un pouvoir d'absorption beaucoup plus important.
En plein ça.
OK, super.
En plein ça.
Mais vrai que t'es un expert.
Ah oui, t'es un expert.
Non, mais ça m'avait marqué quand j'avais lu ça dans la documentation du cours, je m'étais dit...
Oui. On sait aussi c'est tout ça qui donne les énergies fossiles qu'on utilise finalement. Mais bon, on ne va pas se lancer.
Non, tout à fait.
C'est ça, c'est à cause de l'adaptation au changement climatique. C'est très vaste, là. Ça touche à plein d'affaires.
Exact. Puis tu sais, on avait laissé une question, mais... Est-ce qu'il y a moyen de renverser la tendance? Parce que, tu sais, de ce que j'ai compris, on admet qu'il y a des changements climatiques. Est-ce qu'il y a moyen de renverser la tendance des changements climatiques ou on peut seulement les atténuer puis s'adapter à ces changements-là?
Dans le court moyen terme, on est obligé de s'adapter parce qu'on a déjà émis du CO2 dans l'atmosphère. Ça va prendre des décennies.
Dont l'impact se fait ressentir présentement.
Exactement, et ça va continuer à se faire sentir pendant encore plusieurs décennies. Okay. Mais c'est sûr que... prendre des mesures actuellement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ça va être payant à la longue.
Oui.
Ça va être payant.
Mais sur le long terme, par exemple, de quelle façon, je vous pose la question?
Ben, il y a différents scénarios qui ont été émis par le GIEC. Je ne les ai pas en tête, là. Mais je sais qu'il y en a un, par exemple, qui disait que si on arrêtait toute émission de gaz à effet de serre d'ici 2030, je pense.
Dans un monde utopique.
Un monde utopique, à un certain moment, on reviendrait comme à la situation avant l'ère industrielle.
À ce point-là.
Donc, c'est faisable. C'est sûr que c'est à des échelles de temps. Bon, nous, on ne serait plus là, là, mais au moins, on aurait posé un bon geste pour nos petits-enfants. Donc, ouais. Oui, on peut renverser la tendance, c'est juste que ça ne va pas se faire comme...
En claquant des doigts.
C'est ça. Puis, tu sais, les bénéfices sur le long terme, si on prend, par exemple, les feux de forêt, là, si on arrive à réduire ces feux de forêt-là de 50%, puis qu'il y en a 50% moins à chaque année, ben là, on...
Exactement.
Justement, on gagne beaucoup plus de ressources qu'on peut réutiliser.
Exactement. Et tous les impacts dont on a parlé sur les océans.
Donc, c'est un investissement sur le long terme.
Sur le long terme.
Mais c'est ça, il nous faut des éléments déclencheurs pour mettre des mesures en place.
Ce qui est dur à dire, c'est peut-être pas un investissement. Peut-être que nous, en faisant en changeant notre façon de vivre, nos façons de faire, on verra pas l'impact nous-mêmes. Mais comme on dit, c'est bon pour les prochaines générations, nos enfants, nos petits-enfants.
Exactement.
Donc, c'est important de faire sa part.
C'est important.
Puis moi, j'ai une question mais bien simple qui est liée un peu avec ma dernière question. Là. Mais moi, quand j'entends le terme adaptation au changement climatique, là, ça vient me chercher en dedans de moi parce que je me dis, est-ce que s'adapter au changement climatique veut dire admettre la défaite? Dans le sens où est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est... Est-ce que ça veut nécessairement dire ça?
Non, moi, je pense pas du tout. L'être humain a eu à faire face là, tout au long de son évolution là, à des moments où il a dû faire face à...
Des défis.
À des défis. Donc, on s'adapte tout le temps, là, je veux dire. S'adapte dans nous. C'est pas
mais
seulement...
Je pense que c'est la capacité la plus importante de l'être humain,
exactement,
de s'adapter, justement.
Exactement. Et moi, je dis, face à l'adversité, il n'y a pas plus intelligent là, que de chercher à s'adapter.
Voilà.
Okay. D'une part, et puis à traiter la cause.
Le problème est à moitié réglé quand on prend conscience que c'est un problème.
Exactement.
Je pense que le fait de dire que oui, on travaille à essayer d'enrayer les changements climatiques, ben c'est déjà un bon pas en avant.
On n'a pas le choix de toutes les façons.
C'est ça.
Oui, tout à fait.
C'est pas une défaite. J'imagine que... Oui, du CO2 a été émis à cause de la révolution industrielle. C'était dans le but de se développer. C'était de bonnes idées que les gens avaient à l'époque. C'était pour faciliter notre vie, pour prospérer, etc. Donc, bon, malheureusement, ça a cet effet. Maintenant, on comprend. Donc, on se réajuste là. Voilà.
Mais c'est bon de savoir qu'il n'est pas trop tard. Là. On peut encore...
Il n'est pas trop tard, mais il est comme moins une. Là, comme...
Ouais. Minimum comme une. Comme ouais, on c'est le dit. Ça. C'est ça.
Puis en ce moment, c'est quoi qui est fait concrètement par les gouvernements?
Comme je le disais, on a vu une vague là, d'adoption de plans d'adaptation, ce qui est louable.
Mais ça ressemble à quoi un plan d'adaptation?
Ben, le gouvernement identifie là-dedans les mesures... qu'il veut mettre en place pour que ces communautés, ces populations s'adaptent au changement climatique. Au Québec, on a mis l'emphase sur l'électrification. L'électrification du transport, c'est l'un des gros plans là, du gouvernement actuellement.
Parce que le transport est responsable d'une grande partie des émissions.
Exactement. Donc, améliorer nos processus, par exemple, dans le milieu industriel. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, le système de captage, de stockage et de captage de carbone.
Il y a la taxe carbone aussi.
Il y a la taxe carbone également.
On a traité il y a quelques épisodes.
Il était un peu poli. Il y avait un peu de polémique autour ici, mais ailleurs, on a vu quand même que la taxe carbone peut avoir un effet si le bon prix est fixé, à la tonne est fixée.
Oui, parce qu'il ne faut pas faire quitter les entreprises non plus, sinon on n'est pas avancé.
C'est sûr qu'il faut prendre des mesures pour protéger les populations les plus vulnérables, parce que payer l'essence plus cher, ça vient affecter ceux qui ont moins de revenus, mais il y a des moyens là de
des enjeux sociaux avec ça, économiques.
C'est ça, il faut prendre ça en compte. Donc au Québec, c'est l'emphase est mise sur l'électrification. Dans le plan pour une économie verte là, qui est comme le document du gouvernement qui résume
puis ça c'est carrément dans le but comme Évric a dit un petit peu, c'est qu'en électrifiant on émet moins d'émissions de gaz à effet de serre.
Exactement.
Donc ça nous permet justement de vaincre tranquillement justement les changements climatiques.
C'est ça.
Puis nous on est chanceux ici là, on a beaucoup d'énergie hydroélectrique.
Exact.
Donc ça nous permet de faire cette transition là au Québec, mais ailleurs dans le monde, des fois, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais là, on a quand même du solaire, de l'éolien. Donc
il y a du soleil, il y a de l'éolien. L'être humain, là, est formidable en matière de créativité. Donc, ouais. Oui, il y a du soleil. Bah, chez moi, en Afrique, c'est du solaire. On a du solaire, okay. On a du soleil, là. Donc, c'est d'investir, là, dans la recherche pour rendre cette énergie de plus en plus accessible, moins chère aux populations. C'est, par exemple, que chacun un toit solaire, là, chez soi, avec un système, là, pour
s'auto-approvisionner.
Même pour stocker, et donc pour que ça puisse profiter à tout le monde.
Ou à d'autres moments.
À d'autres moments, exactement. Donc, c'est des systèmes qui vont être plus intelligents, qui vont utiliser l'énergie plus, de façon plus intelligente.
Efficace.
Plus efficacement, ouais. Exactement.
OK. C'est,
voilà.
Ouais, fait qu'il y a des beaux défis là, oui. Pour le futur. Là.
Ah ouais.
Mais c'est ça, c'est le temps qu'on leur fasse face.
Exactement.
Puis c'est ça, tu sais, j'aimerais ça qu'on revienne justement, mettons dans le concret, tu, je vais peut-être être étonnant, on en a parlé tantôt, mais dans le concret, dans le présent, en tant que citoyen, comment peut-on, mettons, justement, faire un pas de notre côté en tant que citoyen pour justement faire notre part?
Le recyclage.
C'est ça.
C'est de recycler, c'est d'utiliser une voiture, pas la changer, je ne veux pas donner de leçons à qui que ce soit, mais pas changer une voiture au bout de 5 ans, là, utiliser une voiture...
Réduire notre taux de consommation de manière générale.
C'est ça, ce que j'en comprends beaucoup, c'est juste d'être plus responsable. Dans notre vie de tous les jours, dans notre consommation,
dans
nos déplacements.
Exactement. Dans l'utilisation de l'énergie, que ce soit fermer la lumière...
C'est des petites choses qui s'accumulent là, au fur et à mesure. Tu sais.
C'est pas évident parce que c'était pas dans nos habitudes.
Mais non, exact. Les habitudes, c'est un sacré défi.
Il faut vraiment un changement dans nos modes de vie. Parfois, c'est même des questions identitaires parce qu'en Amérique du Nord, par exemple, on s'identifie à sa voiture. Je veux dire, avoir une voiture. C'est une transformation aussi à ce niveau-là.
Ça va prendre
du temps.
Puis après, il y a tout le niveau politique aussi. Tu sais, on a tous un droit de vote en tant que citoyen. Donc, c'est d'utiliser ça
en effet,
des fois pour favoriser certains partis qui vont mettre de l'avant.
Exactement. Efficaces. On a souvent peur des partis verts. On a souvent peur des partis verts. J'ai vu, c'est pas mon domaine de spécialité, là, je veux dire, mais oui, c'est. Je dirais pas voter pour le parti vert ou le voter, mais dans les programmes gouvernementaux, là, en tant que citoyen, on est capable d'aller lire là, ce que chaque parti nous propose.
C'est de tenir compte de ce volet-là.
Parce qu'on peut mettre de la pression à nos gouvernements là, pour qu'ils changent. Mais c'est sûr que, comme je le disais, c'est pas évident de. Quand on a comme nos habitudes, on a comme je le disais ici en
notre confort.
Notre confort, c'est ça. C'est pas évident de remettre ça en question. Donc exact. C'est tentant souvent d'aller vers un gouvernement qui nous propose de garder
ce confort-là.
Ouais, mais bon, il faut être conscient qu'on le fait pour les générations futures.
Puis tôt ou tard, je pense qu'on, tôt ou tard, on n'aura pas le choix de renoncer à ce confort-là.
Exactement.
En tout cas, nous, Eric, je pense que on va devoir y renoncer à un certain moment, là, parce que c'est quand même imminent. Mais c'est aussi les générations futures qui... Tout le monde va devoir descendre d'un cran.
Tout le monde les générations futures vont nous mettre de plus en plus de pression parce qu'ils sont conscients là, de l'héritage qu'on leur laisse. Là.
Mais c'est ça, petit moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est qu'à un certain moment, c'est de se dire, crime, c'est le fun, moi, ma personne, mais c'est vraiment de penser justement à mes enfants, par exemple, tu sais, qu'est-ce qu'on va leur laisser. Puis c'est peut-être à ce moment-là, en pensant aux autres dans les prochaines générations, que là, on se dit, ben Colin, ça vaut la peine que peut-être, justement, je pense à fermer la lumière ou je fasse des petits changements, puis tranquillement, justement, on modifie notre mode de vie.
Exactement, ça prend beaucoup de sensibilisation. C'est difficile.
Ouais.
Mais moi, ce qui m'encourage, c'est que quand moi, je commence à voir qu'il y a de plus en plus. Bon, c'est parce que je suis dans le monde académique. Quand je vois de plus en plus d'articles qui parlent de ça, je me dis, ça veut dire que ça commence à percoler. Il y a de plus en plus d'articles qui parlent des modes de vie, du changement dans les modes de vie. Même pas que dans des articles scientifiques, hein, dans des articles plus de vulgarisation, de diffusion, on en parle de plus en plus. Quand je parle, dans mon day-to-day, là, en bon français, quand je discute avec mes amis, je vois que c'est quand même quelque chose qui est un peu plus présent comparativement à quelques années en arrière. Le monde est de plus en plus conscient que... Oui, il faut sortir un peu de notre confort, là. Donc, voilà.
L'accès à l'information est meilleur aussi.
Exactement. Donc,
je pense qu'au final, à un moment donné, nous, on est, comme on l'a dit, on est vraiment dans une société de consommation, mais on va sans doute réaliser qu'au final, c'est pas ça qui nous rend heureux, c'est pas ça qui fait qu'on est bien nécessairement.
Mm-hmm.
Donc, il va falloir revoir ça, puis oui, essayer de trouver un sens peut-être différent à notre vie, ou parce que je veux pas aller trop dans la philosophie. Là.
Mais ben, il faut.
Ouais,
moi, je pense qu'il faut. On n'a pas le choix. Les changements climatiques nous poussent à philosopher davantage. Il y a des gens qui repensent complètement leur mode de vie. Je sais qu'ailleurs, par exemple, les gens, au lieu d'acheter par exemple une maison, des familles se mettent ensemble pour acheter une maison, pour que chacun n'ait pas une grande maison, pour qu'il n'y ait pas trop de chauffage.
Ouais, c'est un changement assez drastique. Là. Moi, on me propose ça, puis moi, j'aimerais ça, mais avoir ma petite maison à moi et ma famille.
C'est ça
qui est tough là, de démentir ça au fil du temps, de s'ouvrir à d'autres.
Exactement,
d'autres points de vue,
mais on essaie, on se rend compte que ben, c'est pas pire. Ça peut se faire.
Ben voilà, mais c'est simplement qu'on n'est pas habitué à ça, il ne passe pas nécessairement, parce
c'est
que le modèle veut qu'on ait une petite maison, une petite voiture.
Une petite voiture.
Ah, là, en fait, c'est une grosse maison, puis une
Donc, en finissant, ce serait quoi un monde utopique, mettons, pour les prochaines années, là, en lien avec l'adaptation au changement climatique?
Ah, j'ai pas de réponse claire. C'est une question qui...
c'est embêtant.
Mais c'est sûr que c'est un monde où chacun met en œuvre à son niveau ce qu'il faut. Où chacun est plus responsable. Où nos gouvernements sont plus conscients que ben, nous, populations, sommes plus conscientes qu'il faut changer les choses et donc mettre en œuvre des mesures pour changer les choses. Mm-hmm. C'est ce monde utopique, c'est un monde où, à l'international, tout le monde est d'accord pour dire que les énergies fossiles, il faut s'en passer et donc il faut tous faire un effort pour que ben, on aille vers des énergies renouvelables, parce que le problème se pose actuellement. D'autres continuent à utiliser de l'énergie fossile. Pourquoi est-ce qu'ils continuent? Nous, enfin, bref, c'est comme des chicanes d'enfants, là. Donc, c'est un monde où tout le monde est conscient que, ben, il faut faire un effort et on décide ensemble, là, de faire un effort.
Tout le monde rame dans la même direction.
Exactement.
Puis ça passe par, justement, la sensibilisation, puis l'information.
L'information, la sensibilisation, des changements dans ce qu'on a de plus intrinsèque aussi, qui vient affecter tout ce qui nous définissait en tant que personne, mais sorti de cette zone...
Fait que c'est un gros travail.
C'est un gros travail.
Mais oui, je suis d'accord avec toi, Priscette. Je pense qu'il faut se remettre en question puis revoir justement c'est quoi qui nous rend heureux, puis c'est quoi qu'on veut
Exactement.
Faire.
Exactement.
Mais tu sais, malgré tout, je pense qu'on peut quand même finir ça sur une note positive, dans le sens, moi, de ce que je comprends, justement, en tant que Québécois, le Québec semble avoir justement des plans qui visent à s'adapter au changement climatique.
Absolument.
Concrètement, on sait quoi faire. T'sais, comme on a parlé au début, c'est vraiment d'identifier les risques puis de voir comment on peut pallier à ça.
C'est ça.
C'est
encourageant de voir que, à tous les niveaux de gouvernement, hein, on voit que le monde est plus conscient, donc on travaille à...
Il y a des actions concrètes.
Il y a des actions concrètes.
Puis d'après moi, c'est exponentiel. Là, je veux dire, les mesures qui sont mises en place en ce moment vont en entraîner d'autres, qui vont en entraîner d'autres. Puis
Exactement.
Après, au fil du temps, on va tous tendre vers là, je crois, mais ça va demander du temps, puis on va espérer qu'on aille assez de temps.
On va espérer.
Ben, merci beaucoup, Priscette.
Avec plaisir.
Yes.
Devons-nous.
Avec plaisir.
C'était un plaisir de parler avec toi.
Yes, merci
Priscette. Merci à vous.